Les parts actualités. Bonjour à vous toutes et vous tous, comment allez-vous? Nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 février 2017, je m'appelle Clotilde Seille et je vous invite à prendre connaissance des paractualités du jour avec en titre l'Institut de l'œil des Laurentides, l'IOL à Boisbriand, était une véritable usine de chirurgie de la cataracte. Prendre des somnifères de la famille des benzodiazépines est associé à un risque accru de la maladie d'Alzheimer. Québec, élan de solidarité envers les familles des victimes. Une aide inattendue pour la maison grandiose de Trois-Rivières qui vient en aide aux familles de personnes handicapées. Et puis une jeune femme participe à Miss Canada 2017 pour soutenir la cause de l'autisme dont son petit frère est atteint. Et en Suisse, première communication avec des patients totalement paralysés. Du côté des entrevues, Christine Genet, professeure adjointe en sciences infirmières à l'Université de Montréal au sujet de la semaine de prévention du suicide, et également Antoine Perrault, coordonnateur du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec au sujet des boîtes postales et accès à la documentation. Alors, d'après un reportage de Michel Rochon de l'émission Enquête, on pouvait comprendre ceci, c'est que de 2010 à 2014, l'Institut de l'œil des Laurentides de l'IOL à Boisbriand était une véritable usine de chirurgie de la cataracte. On y a réalisé près de 60 000 chirurgies, dont la moitié pour des cataractes, grâce à une entente de plus de 34 millions de dollars avec le gouvernement du Québec. Ce partenariat, qui ne devait durer que 2 ans au départ, a été conclu pour continuer à offrir des chirurgies dans la région durant la rénovation de l'hôpital de Saint-Jérôme. Lors des 2 premières années, les ophtalmologistes de l'Institut de l'œil touchaient 1 375 $ pour chaque chirurgie de la cataracte. Ce montant provenait de 3 sources, 850 $ de l'entente avec Québec, 325 $ de la Régie de l'assurance maladie, la RAMQ, et 200 $ de frais accessoires facturés aux patients. Durée de l'intervention, 10 à 15 minutes. À ce rythme, chaque chirurgien pouvait faire 40 opérations de la cataracte par jour, ce qui générait un revenu quotidien de 55 000 $. Selon des documents obtenus par Enquête, l'Institut de l'œil des Laurentides a réalisé un profit net, après impôt, de 4,9 millions de dollars seulement pour l'année financière 2011. Surprise, à la fin des rénovations du département d'ophtalmologie de l'hôpital Saint-Jérôme, en 2012, les ophtalmologistes de l'IOL refusent de retourner à l'hôpital. Ils ne sont pas satisfaits des travaux de rénovation. Les médecins actionnaires de l'Institut de l'œil des Laurentides et des dirigeants actuels du CIS des Laurentides ont refusé de répondre à nos questions sur le contenu de ces ententes. Publié sur le site www.sciencepresse.qc.ca, ce papier qui nous dit que prendre des somnifères de la famille des benzodiazépines est associé à un risque accru de la maladie d'Alzheimer. Mais pas de panique! Ça ne signifie pas pour autant que ces médicaments causent la démence. En effet, ce n'est pas parce qu'il existe un lien entre deux choses qu'il s'agit d'un lien de cause à effet. Explication. En 2014, des chercheurs franco-canadiens publient une étude dans le British Medical Journal dont les résultats ont fortement fait réagir. La prise de benzodiazépines, comme le Valium, le Xanax, etc., durant plus de 3 mois, serait associée à un risque accru de développer la maladie d'Alzheimer, pouvant atteindre 51%. Mais établir un lien entre un médicament et une maladie ne prouve pas que le médicament cause la maladie. On peut aussi tout simplement prendre des médicaments parce qu'on est déjà malade. Cette étude a en effet démontré que les cas d'Alzheimer sont plus fréquents chez ceux qui ont pris ces médicaments pour dormir, alors que l'insomnie et l'anxiété figurent parmi les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer. Beaucoup de patients en souffrent avant même que le diagnostic d'Alzheimer soit posé. C'est ce que pense le Dr Howard Chertkow, neurologue spécialiste de la maladie d'Alzheimer à l'Université McGill, interrogé au sujet de cette étude, et qui dit « Il est probable que la maladie d'Alzheimer précoce soit à l'origine de l'insomnie qui mène à la prescription de benzodiazépines, et pas l'inverse. L'association entre les benzodiazépines et la maladie d'Alzheimer est indéniable, mais le lien de cause à effet n'est pas démontré. Cependant, en raison de leurs nombreux effets néfastes sur la santé et des symptômes de sevrage qui rendent leur interruption problématique, il serait sage de ne pas prendre de benzodiazépine pour une période dépassant 3 mois. C'est en ce moment la semaine de prévention du suicide. Dimanche dernier, je ne sais pas si vous étiez au poste, mais on a pu entendre le témoignage notamment de M. Taillefer à Radio-Canada, à l'émission « Tout le monde en parle ». Lui dont l'enfant de 12 ou 14 ans, je ne me souviens plus, a mis fin à ses jours il y a un peu plus d'un an maintenant. Alors, pour parler de la semaine de prévention du suicide et tout ce que nous pouvons faire ou ne pas faire, je m'adresse à Christine Genet, professeure adjointe en sciences infirmières à l'Université de Montréal. Bonjour, Madame Genet.
Bonjour à vous.
Alors, l'Institut national de santé publique a publié ses données un petit peu plus tôt cette semaine, notait un recul du suicide. Hein? Mais cela demeure quand même la deuxième cause principale de décès chez les 15-24 ans. C'est terrible. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela, Mme Genet?
Oui, en effet, c'est toujours intéressant de voir que les efforts qu'on fait au niveau de la prévention permettent de diminuer un peu les suicides, mais chaque suicide est important en soi et crée une détresse chez les proches, donc c'est toujours triste, même si quand il y en a juste un. Chez les 15-24 ans, spécifiquement, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est tout l'impact social aussi qu'on sent chez ces jeunes-là, l'anxiété qu'ils peuvent vivre, les performances qui sont amenées, toute l'intimidation qu'ils peuvent vivre sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut être des éléments sont aussi plus difficiles à aller chercher au niveau de la prévention. Des fois, c'est pour eux, c'est dans les médias, c'est maintenant la pire crise qui va leur arriver, ça va être la fin du monde. Donc, des fois, c'est ces moments-là qui sont plus charnières, mais ce n'est pas nécessairement la population qui sont le plus à risque, mais c'est ceux pour lesquels, souvent, il y a le plus d'années de vie qui sont perdues.
Quelle serait, d'après vous, la tranche de population qui serait la plus à risque?
Généralement, c'est les hommes adultes, 30 à 50 ans, là, généralement, c'est la catégorie qu'on dit qui sont les plus à risque de se suicider. Donc, c'est souvent cette population-là qui est le plus à risque. Reste que les jeunes, c'est souvent ceux qu'on entend le plus parler. Les personnes âgées, souvent, qu'on n'entend pas parler, mais qui sont eux aussi à risque de suicide.
Bon, évidemment, on s'interroge toujours et il est bon de se le faire rappeler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider une personne que l'on suppose être suicidaire? Parce que le problème souvent, c'est que ces gens-là ne communiquent pas.
Non, c'est ça. Et moi, je travaille beaucoup, surtout aussi au niveau de la postvention chez les endeuillés par suicide. Et ce que je voudrais dire comme message beaucoup, c'est de ne pas se culpabiliser. Parce que souvent, on a le message de dire, bon, on aurait pu le voir, on aurait pu le prévenir, mais souvent, ça l'arrive, puis il y a des choses qu'on n'a pas pu voir. Il ne faut pas se sentir coupable de ça. Mais des fois, il y a des signes. Comme M. Taillefer, je l'entendais hier à la radio, ce qu'il disait aussi, c'est qu'à un moment donné, le jeune commence à mieux aller, puis on se dit, ah, ben enfin, on est sur la bonne voie. Mais souvent, c'est un signe précurseur que pour lui, la décision est prise. Oh. Puis maintenant, il est serein avec sa décision. Donc, il faut faire attention avec un jeune qui ne va pas bien puis qui, du jour au lendemain, se met à aller mieux. À ce moment-là, c'est peut-être avoir des petites antennes pour mieux dépister. Aussi, chez des gens qui vont commencer à se débarrasser de leurs choses, à laisser aller des choses auxquelles ils tiennent beaucoup. Des fois, ça peut être des symptômes. Et dès qu'on sent que quelqu'un ne va pas bien, c'est d'en parler. C'est d'ouvrir la discussion, d'en parler, de ne pas avoir peur d'aborder le sujet, puis d'aller
chercher de l'aide. Est-ce qu'on peut carrément poser la question à quelqu'un? Est-ce que tu penses à mourir? Tu penses à...
C'est important de poser la question clairement, à savoir, puis de ne pas essayer de prendre des chemins. Là. C'est est-ce que tu penses à mourir? On est inquiet pour toi et tu comptes pour nous. Puis de poser la question clairement, puis la personne va nous répondre à ce moment-là. Devrait essayer, en tout cas, puis au moins ça va ouvrir la discussion.
Est-ce que c'est un mythe, Madame Genet? J'ai souvent entendu dire que finalement, les gens qui voulaient mourir, se donner la mort, n'en parlaient pas et que ceux qui disaient qu'ils y pensaient, finalement, c'est pas ceux qui pensaient à l'acte.
Non, c'est pas vrai. Il y en a, c'est sûr qu'ils le diront pas, mais il y en a qui vont en parler, qui vont le dire. Et c'est pas vrai. Faut toutes les gens qui en parlent, faut le prendre au sérieux. Quelqu'un qui va parler, qui veut mourir, même si c'était pas nécessairement dans l'intention de mourir, il y a une souffrance qui nous exprime à ce moment-là.
Oui.
Donc, c'est d'être à l'écoute de cette souffrance-là, puis de pas prendre ça à la légère. C'est vraiment très important.
Mais quand vous parlez de ne pas se sentir coupable. Écoutez, je n'ai jamais vécu cette situation-là, mais j'ai déjà eu auprès de moi une famille bouleversée par le suicide de leur fils.
Oui.
Et la culpabilité, je veux dire, ça a été l'horreur pendant ça a duré parce que eux, on a l'impression. Je veux dire, ça peut se comprendre que les parents, voilà, se sentent coupables. C'est ça que je voudrais...
Oui, c'est tout à fait normal. C'est une émotion qui va être vécue de façon générale. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'endeuillés, puis c'est ce qu'ils nous disent. Ils vont vivre de la culpabilité, de la honte, de la stigmatisation, du déni, de la colère. Mais c'est juste que dans les propos, puis dans le discours social, c'est juste de ne pas entretenir cette culpabilité-là encore plus en disant, bien, vous auriez dû le voir.
Quelles sont les meilleures ressources disponibles pour des parents qui sentent que peut-être leur enfant serait au bord du gouffre?
Tout d'abord, il y a toujours la ligne d'écoute, la ligne d'appel qu'on peut utiliser, le 1-866-APPEL, qui est la première ligne qu'on peut utiliser. Il y a aussi, dans différentes régions, il y a des centres de prévention du suicide qui peuvent offrir des services, autant en prévention, mais aussi chez les gens qui sont endeuillés. Ça peut être des services qui sont offerts. Dans la région de Montréal, on a Suicide Action Montréal qui offre des services. Puis quand on est trop inquiet puis qu'on pense qu'il y a un danger immédiat, ben c'est l'urgence à ce moment-là. Faut pas attendre.
Je trouve ça, en tout cas, c'est la première fois que j'entends parler du fait, attention, soyez vigilants si l'enfant ou votre proche, en tout cas, ou l'adulte, finalement, va mieux. Écoutez, je vais vous poser une question qui était peut-être pas prévue en tant que telle, je sais pas, on va essayer. C'est que souvent, on en veut aussi. J'ai déjà vu ça autour, on a tous vu ça autour de nous ou dans des documentaires, c'est que finalement, on en veut aussi aux gens qui passent à l'acte et qui ne laissent rien derrière eux.
Oui.
Aucune explication.
Oui.
Est-ce qu'on sait, au moment où la personne passe à l'acte, Mme Genet, son état d'esprit n'est-il pas complètement déjà déconnecté de la vie? Je veux dire, je me fous de ce qui va se passer derrière, pas dans le sens conscient du terme. Est-ce qu'ils ne sont pas déjà partis?
Généralement, quand ils ont rendu, qu'ils ont pris leur décision, généralement, ils vont avoir sous-pesé les pour et les contre. Bon, il y en a certains que ça va être de façon impulsive, mais généralement, ils vont avoir sous-pesé les pour et les contre. Je dirais que il y en a qui laissent des lettres. Et c'est pas nécessairement toujours plus... pour certains, c'est apaisant, ces lettres-là, parce que ça donne des réponses, au moins de savoir que ils n'étaient pas en colère contre nous, tout ça. Mais il y en a pour certains que ça répond pas à toutes les questions. Puis ce qu'il faut que les endeuillés arrivent à faire ou que l'entourage arrive à faire, c'est à un certain moment donné dire « j'aurai pas toutes les réponses à mes questions ».
Non, c'est ça.
Mais la colère est normale. Puis en même temps, ils ont toute la dualité de vivre cette colère-là, alors qu'en même temps, ils ont de la peine envers la personne qui... Fait que c'est tout un mélange d'émotions qui est parfois difficile à gérer. Il ne faut pas qu'ils s'empêchent d'aller chercher de l'aide.
Tout ça est fort intéressant, Mme Genet. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions ce matin. Mais je vous en prie, passez une bonne journée parce que, rappelons quand même avant de raccrocher, que 3 Québécois s'enlèvent la vie par jour, c'est beaucoup.
Oui, puis merci d'en parler. Puis s'il y a des jeunes qui n'hésitent pas à appeler un 866-APPEL.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Par l'actualité régionale maintenant, élan de solidarité envers les familles des victimes à Québec. C'est d'après un papier de Marie-Pascale Fortier dans Québec Hebdo. Mercredi matin, Normand Morneau s'est présenté au Centre culturel islamique de Québec, chéquier en main, pour offrir un soutien financier aux familles des victimes qui vivent actuellement un drame sans nom, un geste qui a grandement touché le vice-président du centre. « J'aimerais que les gens manifestent de la sympathie à l'endroit des familles qui ont été affectées, à simplement laisser tomber M. Morneau. Les moyens ne sont pas illimités, mais je l'ai fait dans la mesure de ce que je pouvais faire », a-t-il ajouté. Le vice-président du Centre culturel islamique de Québec, Mohamed Labidi, était très touché et ému par le geste de M. Morneau. « Les dons sont très importants pour la communauté parce qu'on a des besoins financiers pour les familles des victimes. On ne voudrait pas qu'il manque de quoi que ce soit », a-t-il confié par la suite, la voix chargée d'émotion. Il souligne le fait que certains blessés qui se trouvent toujours à l'hôpital en sortiront peut-être handicapés pour le reste de leur vie et qu'ils auront besoin d'un grand soutien financier. Outre les besoins financiers des familles, la mosquée devra également être remise en ordre pour sa réouverture comme lieu de culte. « C'est une urgence », affirme M. Labidi. « On a besoin d'argent pour refaire les tapis et faire le nettoyage ». D'autre part, mercredi, le Fonds humanitaire des métallos, le FHM, syndicat qui représente notamment les chauffeurs de taxi, a joint sa voix à l'élan de solidarité. Le regroupement a offert un don de 5 000 $ pour aider les victimes de l'attentat. Les métallos tiennent à exprimer leur solidarité avec les membres de la communauté musulmane éprouvés par la tragédie. Nous partageons leur peine et sommes à leur côté en cette période difficile, a déclaré le président du FHM et directeur canadien du syndicat des métallos, Ken Newman. Le don sera versé au fonds dédié à l'appui aux familles des victimes de l'attentat. C'était un texte écrit en collaboration de Mathieu Turgeon. Dans Ici, Mauricie, centre du Québec, on peut lire qu'un résident de la maison Grandiose en compagnie... La maison Grandiose, qui vient en aide, voilà, ça va aller beaucoup mieux là, qui vient en aide aux familles de personnes handicapées à Trois-Rivières, sera agrandie, rénovée, grâce à des étudiants de l'école d'entrepreneurship de Beauce. L'initiative vient d'Isabelle Côté, qui est une entrepreneure de la région et qui suit ce programme. Isabelle Côté a eu l'idée de donner un coup de pouce à cet organisme situé dans le secteur Cap de la Madeleine, car elle passe régulièrement devant en faisant son trajet de course. Je regardais la maison et je me disais, il me semble qu'elle aurait besoin d'un peu d'amour, raconte-t-elle. Cet organisme qui a failli fermer ses portes il y a 2 ans, faute de subvention. Ça va régler tous nos problèmes, de dire Alexandra Carvajal-Séguin, qui est la coordonnatrice de la maison. Il faut dire aussi qu'un cocktail et un encan silencieux au profit de la maison Grandiose ont d'ailleurs eu lieu à Trois-Rivières lundi soir. Les responsables du projet cherchent aussi des entrepreneurs qui seraient prêts à donner un coup de main. Et si tout se déroule comme prévu, ce projet d'agrandissement sera achevé en juin. C'était d'après les informations d'Anne-André Danou. Antoine Perrault est coordonnateur du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, autrement dit du RAC, et je vais me tourner maintenant vers lui. Il sera question des boîtes postales et de l'accès à la documentation. Bonjour, Monsieur Perrault.
Bonjour, ça va bien?
Très bien même, et vous-même?
Oui, merci.
Bon, alors, quel est le principal problème avec l'implantation de ces boîtes postales communautaires pour les personnes aveugles et malvoyantes, Monsieur Perrault?
Il y a plusieurs problèmes. Je tiens à souligner d'ailleurs que l'implantation est présentement moratoire,
oui.
Qui est annoncée le 26 octobre 2015, suite à un tollé qui a été soulevé. Faut comprendre que il y a plusieurs enjeux. Premièrement, l'enjeu de l'emplacement. Il y a beaucoup de réflexions face à ce qui pourrait être un danger. En lien avec le trafic généré, en lien avec le déneigement qui est parfois aléatoire dépendamment des milieux urbains dans lesquels on réside, les risques de chute l'hiver.
De chute, oui.
Au-delà du... on pense rapidement aux boîtes extérieures, mais il y a aussi le manque d'accessibilité. À la fois pour les boîtes extérieures ou les boîtes intérieures, on peut penser à des boîtes postales qui sont dans des pharmacies, dans le fin fond d'une pharmacie, mal indiquées, pas de soutien. C'est vraiment des enjeux majeurs pour les personnes aveugles et les personnes amblyopes, et c'est pourquoi on a dénoncé en maintes reprises l'annonce de l'arrêt de la livraison du service à domicile.
Et que vous avez bien fait. Alors, vous avez mené plusieurs actions au cours de la dernière année. On en est où? Et alors, quelles étaient ces actions et qu'est-ce que ça nous amène?
Dès l'annonce d'une possible implantation des boîtes postales communautaires, donc d'un arrêt de livraison à domicile, le RAC a envoyé des lettres. Au début, on a envoyé des lettres à l'honorable Judy Foote, qui est la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement Canada, la personne responsable de Poste Canada. Très rapidement, on a été redirigé vers un groupe de travail de l'examen de Post-Canada. Donc, suite à l'annonce du moratoire qui a eu lieu, Post-Canada a entamé des démarches, un processus d'examen qui l'a ouvert au public, aux organismes, pour qu'on m'envoie des mémoires, des lettres, des avis d'intention. Ce qu'on a fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, puis c'est pour ça qu'on en parle un peu ce matin, il y a des développements. Trop tôt pour qu'on puisse, comme regroupement, se prononcer officiellement. Ceci étant dit, à la mi-décembre 2016, le comité parlementaire responsable de l'analyse, qui se nomme le comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, a déposé un document qui s'appelle « La voie à suivre pour Poste Canada ». Je ne vous cacherai pas que c'est un document qui est excessivement long.
D'accord. Donc,
sur les 212 pages, je n'ai pas pu faire l'analyse complète. J'ai pas eu le temps de faire l'analyse complète. On est quand même uniquement début février. Ceci étant dit, ce qui est possible d'en ressortir, puis je vais me permettre de paraphraser le rapport là, concernant les observations, les recommandations que le comité a fait. Ils disent que les préoccupations des collectivités concernant la sécurité
Oui.
Et la sûreté sont légitimes et doivent être pris au sérieux par la société.
Bon.
Puis là, il parle vraiment d'une relocalisation des boîtes postales communautaires.
Bon.
De plus, une des recommandations, qui est la recommandation 23, pour ceux qui veulent lire le document, c'est que Postes Canada maintienne son moratoire sur la conversion aux boîtes postales communautaires et élabore un plan visant le rétablissement de la livraison à domicile pour les collectivités où la conversion a été effectuée après le 3 août 2015.
Oui.
On ne peut pas crier victoire
non.
pour un paquet de raisons, donc c'est beaucoup plus complexe que uniquement cette recommandation-là, et que c'est au printemps 2017 que le gouvernement va annoncer sa décision finale.
Bon.
Donc là, on parle vraiment... Le document, la voie à suivre pour Postes Canada, c'est un rapport qui a été fait. C'est vraiment un document qui a été déposé, mais on n'est pas à la victoire tout de suite.
Non, c'est ça.
Ceci étant dit, c'est un rapport d'un comité permanent composé de personnes influentes. Donc, on peut espérer que ce rapport-là soit entendu.
D'accord. Mais écoutez, ce qu'on constate encore une fois avec ce dossier-là, c'est qu'il y a une partie de la population dont on ne tient absolument pas compte, quoi.
Tout à fait. Tout à fait.
À la base, c'est ça.
Oui, je vous dirais que en plus de tout ça, une des réponses qu'on a reçues, c'est des accommodements qui ont été proposés par Postes Canada, pas uniquement le RAC, mais une des réponses qui a été donnée, c'est qu'il y avait des accommodements d'offert à Postes Canada aux personnes en situation de handicap.
Oui.
Par exemple, que la livraison serait maintenue sous condition de remplir des formulaires.
Oui, oui, oui. On a entendu parler de ça, bien sûr.
On va s'entendre que des formulaires contiennent plusieurs questions d'ordre privé. On parle aussi d'obtenir un bien médical. C'est des obstacles supplémentaires qui renforcent l'exclusion. C'est pas quelque chose qu'on est d'accord avec. C'est encore une fois de dire qu'il faut... Bon, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire.
Non, je comprends. Je comprends, mais vous savez, M. Perrault, par contre, permettez-moi non pas de me faire l'avocat du diable, mais de vous à moi. Il n'y a pas moyen, avec des voisins aussi, d'organiser quelque chose. Moi, je me souviens, quand j'habitais en banlieue, il fallait que j'aille chercher mon courrier déjà dans ces boîtes-là qui sont installées. Et ça m'arrivait souvent d'aller chercher le courrier pour ma voisine d'en face, qui est une personne handicapée. Ce que je veux dire, c'est que je ne voudrais pas déresponsabiliser... le gouvernement et Postes Canada, bien évidemment. Hein. Mais je me dis, c'est quand même dommage, en 2016-2017, qu'il y ait encore des gens qui ne puissent pas compter sur le voisinage, les amis ou la famille pour
C'est un constat que vous faites. Et effectivement, pour certaines situations privées, c'est des choses qui pourraient se faire. Ceci étant dit, comme vous l'avez dit, c'est une déresponsabilisation.
Absolument.
Une personne ne devrait pas devoir se fier sur son voisin pour avoir son courriel.
Non.
Soit son courrier, pardon. Pour ça, c'est un droit.
Ouais,
c'est un droit qui est retiré. Parce qu'effectivement, une situation peut faire qu'on demande à un voisin un coup de main. Ceci étant dit, ça reste un droit d'aller chercher son courrier.
Oui, absolument. Absolument.
La possibilité de le faire, c'est inacceptable. Surtout qu'il y a plusieurs avenues possibles à explorer pour... Parce qu'on s'entend que Postes Canada, une des choses qu'ils ont mis de l'avant, c'est le manque de ressources financières. Mais il y a d'autres avenues à explorer. Beaucoup d'autres avenues à explorer.
Absolument. Non, mais vous savez, moi, M. Perrault, je voulais juste souligner le fait quand même que je trouve qu'on vit de plus en plus isolé dans notre petit chez-nous, dans notre petit confort, et que c'est quand même très, très dommage par rapport à une autre catégorie de la population qui ne peut peut-être pas se permettre ni ce confort-là, ni cette aisance de vie physique. Hein, alors, c'est juste ça que je voulais souligner. Quoi.
Non, puis je comprends le point, mais je ramène que c'est vraiment la responsabilité
de Postes Canada, bien sûr,
que chaque personne puisse avoir son courriel de manière autonome et indépendante.
Absolument. Absolument. Antoine Perrault, coordonnateur du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, merci beaucoup de mener ce combat-là, encore
Avec
une fois.
Avec plaisir, on vous tient informé du développement.
D'accord. Bonne fin de journée.
Bonne journée, au revoir.
Actualité nationale, une jeune femme de Québec, finaliste pour Miss Canada 2017. Et là, vous vous demandez ce que ça vient faire dans les paractualités. C'est un papier signé Marie-Pascale Fortier dans Québec Hebdo qui nous dit que la finaliste de Québec a décidé de soutenir la cause de l'autisme. Alban Marion, une jeune femme de 22 ans, est en lice pour devenir Miss Canada 2017. En vedette dans le calendrier Dream Team Summum 2017, le modèle du mois de septembre commence à cumuler les expériences de mannequinat et elle souhaitait d'abord et avant tout participer à Miss Canada 2017 pour soutenir la cause de l'autisme dont son petit frère est atteint. Alban Marion, qui considère, et là je la cite, que ce n'est pas parce que tu es jolie que tu as quelque chose à dire, eh bien elle fait partie des quatre finalistes québécoises et elle a décidé de soutenir l'organisme Action Autisme. Au cours de la prochaine année, elle souhaite organiser une campagne de financement pour aider Action Autisme dans sa mission. Si elle est élue Miss Canada 2017, elle deviendra ambassadrice de l'organisme et pourrait représenter le Canada dans divers concours internationaux. Et puis à l'international, maintenant en Suisse, c'est paru, c'est un article qui vient de l'AFP, écrit par Kerry Sheridan, qui nous dit que des scientifiques d'un centre de recherche en Suisse ont réussi à communiquer pour la première fois avec des patients totalement paralysés et découvert qu'ils étaient heureux. Les quatre patients avec lesquels une communication a pu être établie grâce à une interface ordinateur-cerveau sont tous atteints de la maladie de Charcot ou la sclérose latérale amyotrophique, cette maladie qui les empêche de faire le moindre mouvement et qui est mieux connue comme le syndrome de l'enfermement parce qu'ils sont totalement prisonniers de leur corps et ne respirent que grâce à une machine. Ils ne peuvent même plus cligner de l'œil, une méthode de communication rendue célèbre dans le best-seller « Le scaphandre et le papillon » de Jean-Dominique Bauby. Alors évidemment, ces résultats bousculent complètement la théorie, par exemple, du professeur Birbaum, selon laquelle les gens qui souffrent d'un syndrome de l'enfermement sont incapables de communiquer et surtout d'être heureux. Lorsqu'on leur a posé des questions, qui pouvaient être des questions aussi banales que « est-ce que votre fils s'appelle Jérémy ?» Et à un moment donné, ils leur ont demandé « est-ce que vous êtes heureux ?» 70% des personnes ont répondu « oui ». Alors, la technologie utilisée par ces chercheurs associe la spectroscopie dans les longueurs d'onde proches de l'infrarouge, une technique éprouvée de longue date, à un électroencéphalogramme pour mesurer l'oxygénation et l'activité électrique du cerveau. C'est la seule approche qui a permis jusqu'à présent de communiquer avec ces personnes atteintes du syndrome de l'enfermement. Très rapidement, la Traverse Québec-Lévis de la Société des Traversiers du Québec est heureuse de s'associer de nouveau au Carnaval de Québec. Pendant la course qui va avoir lieu le dimanche 5 février, il n'y aura pas de traversier, mais vous pourrez assister à la course du traversier et c'est accessible. Le traversier est accessible aux personnes handicapées. Voilà, c'était les paractualités avec Clotilde Seille. Bonne fin de semaine.